Dans cette édition, on parlera de Sébastien Lecornu. Il est le nouveau Premier ministre. On parlera aussi de la pénurie de chauffeurs de bus qui prend des proportions inquiétantes. Et pour terminer, cette infoculture, Évrard Chaussois veut la défiscalisation des œuvres d'art. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Et on commence avec cette nomination à Paris. Ça y est, on a un nouveau Premier ministre.
Et cette fois, ça n'a pas traîné. Le gouvernement est tombé hier. François Bayrou a présenté sa démission dans la journée de mardi. Et quelques heures plus tard, l'Élysée annonçait le nom de son successeur. C'est donc Sébastien Lecornu qui devient Premier ministre, un fidèle du président de la République et pas un inconnu du Fénois, puisqu'il est déjà venu 3 fois en Polynésie. La dernière fois, c'était en 2021, alors qu'il était ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu doit désormais consulter les partis et, je cite le communiqué de l'Élysée, bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois, proposer un gouvernement d'abord et puis voter le budget ensuite, et peut-être faire face à une grogne sociale qui s'annonce en France, entre autres priorités.
Et d'ailleurs, Nicole Sanquer est revenue sur son vote d'hier.
Des 3 députés polynésiens, seuls Moerani Frebo a voté la confiance au gouvernement Bayrou, Meriana Reid-Arbelot et Nicole Sanquer ont voté contre. Pour la députée du groupe Liotte, c'est sa déception qui a guidé son choix. Elle cite notamment l'accompagnement financier des Capétiens qui partent en métropole, l'utilisation des fonds saisis chez les trafiquants de drogue pour financer un centre de désintoxication, ou encore le blocage foncier autour du dépôt de munitions de Papéari. Rien n'a pu avancer depuis ces 8 derniers mois.
Finalement, j'ai refait mon bilan de tous les dossiers que j'avais sur la table. Ben, les interlocuteurs sont pas bons, quoi. C'est vrai, ils m'ont reçu, hein. Ils m'ont tous reçu. Ils m'ont tous écouté. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'apporter des réponses. Et puis, finalement, les réponses n'étaient pas celles que j'attendais. Des engagements non tenus, même de Valls. Hein. Je me suis expliquée, hein, avec des conseillers. Hein. J'ai dit, écoutez, vous êtes bien gentils. Quand vous avez besoin de nous, parce que moi, j'ai jamais censuré le gouvernement. J'ai dit, j'espère que la prochaine équipe que vous allez constituer, ben, elle sera plus à l'écoute de la Polynésie française.
Le nouveau Premier ministre est donc nommé, mais on ne sait pas si la session extraordinaire qui a été prévue le 22 septembre à l'Assemblée nationale pour notamment voter le texte sur les compétences des communes se tiendra. Ce texte déjà adopté par le Sénat et modifiant l'article 43.2 devait être soumis aux députés.
En tous les cas, au niveau de l'Assemblée nationale, ben, nous allons maintenir les auditions qui commencent le 15 sur 3 jours pour que le texte soit prêt à passer en commission dès que le gouvernement aura été nommé et qu'ils auront décidé de nouvel ordre du jour.
Et Nicole Sanquer s'inquiète aussi de la convention santé. Elle devait être finalisée lors d'une visite de l'ex-ministre de la Santé, Yannick Neuder, en Polynésie. Mais il devait y avoir encore des discussions car le pays, l'État n'était pas d'accord. On parle désormais d'un nouvel avenant.
On passe à l'actualité sociale maintenant avec cette question. Faut-il déléguer le contrôle médical au privé ?
2 semaines déjà que dure le conflit dans le secteur commerce et au cœur des négociations, les jours de carence et surtout finalement les abus en matière d'arrêt de travail. Et une nouvelle solution a été posée sur la table, le contrôle médical patronal. Il s'agit d'autoriser les chefs d'entreprise à commander à leurs frais des contre-visites médicales pour s'assurer de la légitimité des arrêts de travail. Un mécanisme qui existe déjà depuis longtemps en France et en Nouvelle-Calédonie. Le principal acteur de ce contrôle médical patronal sur le Caillou a d'ailleurs créé une filiale au Fénois, Medical Partner Control. Alors comment ça marche? Chez nos voisins, cette société travaille avec un groupe de médecins indépendants. Ils sont envoyés sur le terrain, sur demande en ligne des employeurs et généralement sous 24 heures. Le reste, c'est l'associée gérante de la société, Cindy Véran, qui nous l'explique.
Si le salarié n'est pas présent pendant l'arrêt de travail alors qu'il est censé l'être, c'est une notification d'absence. Si le salarié est présent, on procède à l'examen médical et le médecin donne ses conclusions, savoir si au jour de la visite, l'arrêt de travail est toujours justifié ou n'est plus médicalement justifié. On transmet ce rapport à l'employeur qui, lui, devra le transmettre auprès de la caisse compétente qui, elle, décidera si elle suit ou pas notre avis. L'employeur, lui, pourra décider de le suivre dès le départ et l'objectif, c'est que ça soit rapide. Pourquoi ? Parce que si c'est plus médicalement justifié, il faut une intervention et une reprise du travail dès le lendemain du contrôle.
Et le médecin transmet à l'employeur un compte-rendu et si l'arrêt est jugé injustifié, l'employeur peut choisir d'interrompre le versement des indemnités de salaire. La CPS peut elle aussi prendre ses propres mesures. Ni l'ordre ni les syndicats de médecins ne se sont exprimés sur l'idée, mais elle a bien été discutée en conseil d'administration de la CPS qui y voit une piste d'économie. Pour les patrons, c'est une option pour décourager les arrêts abusifs. Quant aux syndicats, malgré leur opposition à la réforme des jours de carence dans le commerce, ils reconnaissent que les arrêts injustifiés désorganise les entreprises et pèse sur les autres salariés.
Nous, en Calédonie, on existe depuis 25 ans. Les textes ont prévu le contrôle médical patronal. En Polynésie, c'est des petits ajustements sur des lois pays qui pourraient permettre des interventions de sociétés privées comme Medical Partner Control pour qu'on puisse, à la demande de l'employeur, intervenir et pour que la CPS également puisse s'appuyer sur nos rapports. En l'état actuel des choses, s'il n'y a pas ces ajustements sur les lois pays, il n'y a pas trop de légitimité à ce qu'on puisse intervenir.
Medical Partner Control dit avoir déjà travaillé avec un cabinet d'avocats polynésiens pour préciser les évolutions réglementaires nécessaires. Des propositions doivent être faites au gouvernement et à la CPS dans les semaines à venir.
Et justement, Lucie, concernant les mouvements sociaux, quelles nouvelles ?
Rien du côté du commerce où les syndicats ne désarment pas malgré une mobilisation assez faible. Un protocole d'accord a été signé à la Polynésienne des Eaux. Discussion toujours en cours à la TSP. Et du côté de l'OPT, les négociations se poursuivent. Les syndicats discutent de chaque point de revendication. Ils devaient à nouveau se revoir ce matin et jusque-là, pas de blocage ni de piquet de grève.
On parle maintenant de cette pénurie de chauffeurs de bus.
Depuis 2019, aucune auto-école polynésienne ne forme au permis D, celui des chauffeurs de transport en commun. Aucune auto-école n'a de véhicule équipé non plus et depuis 5 ans, donc, aucun candidat n'a pu se présenter. Et il y a urgence puisque 66% des conducteurs actuels ont plus de 50 ans et on aura besoin de 380 chauffeurs d'ici 2027. Cette pénurie de chauffeurs est un problème non seulement pour les transports publics, mais aussi pour le scolaire ou le tourisme. Le pays en est conscient et avait espéré que les incitations fiscales à l'achat de véhicules favoriseraient l'initiative privée. C'est raté, il a donc décidé de mobiliser le CFPA. Et ce matin, le CESEC a donné un avis favorable à la modification du code des transports pour permettre au CFPA de dispenser cette formation. On écoute son directeur Jean-Michel Blanchemanche.
Aujourd'hui, il en manque 150. Dans 2027, il devra en manquer 380. Donc pour pallier à ce déficit, nous avons acheté un bus pédagogique pour pouvoir venir tout de suite amorcer cette pompe qui depuis 6 ans est à l'arrêt complet. On va travailler en partenariat avec les auto-écoles, elles feront la partie conduite et nous ferons la partie métier.
La formation complète dure 16 semaines et elle est rémunérée par le pays. Un partenariat a déjà été noué avec Tere Tahiti. Une première session commencera au mois de novembre et 6 autres sont prévues en 2026.
Nous avons créé un titre professionnel de façon à professionnaliser le métier et pas en faire des simples chauffeurs. Le CFPA va rémunérer les stagiaires à concurrence de 80 000 francs jusqu'à 29 ans et au-delà de 30 ans, 100 000 francs. Aucun coût pour les candidats avec le CFPA. Les sessions sont à l'heure actuelle programmées pour des cohortes de 10.
Voilà, et si tout le monde réussit l'examen, 120 chauffeurs seront formés en 2 ans. Il en manquera donc encore. Le pays garde l'espoir que le secteur privé s'y mette.
Dans l'actualité aussi ce midi, il y a du tribunal.
Et oui, vous vous souvenez peut-être du Rémi, un thonnier espagnol sur lequel plus de 500 kilos de cocaïne avaient été saisis au large des Australes en décembre l'année dernière. Ces 14 marins sont jugés depuis ce matin. Les hommes âgés de 36 à 64 ans, majoritairement de nationalité équatorienne, sont passibles de 10 ans de prison et 895 millions de francs d'amende. Partis de Guayaquil en Équateur vers l'Australie, c'est sur leur retour que le bateau avait été arraisonné par la marine française avec la cocaïne à bord. Les marins nient tous leur implication dans un trafic de drogue. Ils expliquent que c'est par hasard, pendant leur campagne de pêche, qu'ils ont ramené 11 ballots de cocaïne dans leur filet. Un seul a reconnu les faits lors de sa garde à vue, mais il s'est vite rétracté devant le juge d'instruction. Il a alors expliqué avoir subi des pressions de la part des gendarmes. Prévu sur 2 jours, le procès ne pourrait durer qu'une journée.
La journée mondiale de prévention du suicide est organisée à l'Assemblée demain.
Un moment de recueil puis une intervention d'un médecin psychiatre sont prévues lors de cette matinée d'information. L'association SOS Suicide organise aussi un rassemblement de différents acteurs autour de stands pour la population et les personnes qui cherchent de l'aide. Des dispositifs d'accompagnement existent au Fénois. C'est donc demain de 8h30 à midi dans le hall de l'Assemblée.
Et puis dans une semaine, l'association Cousins Cousines inaugure son nouveau local.
Ce sera lundi prochain à 9h. L'association qui se bat pour les droits des personnes LGBT donne rendez-vous désormais aux 11 rue de l'école des Frères de Ploermel à Papé Café Été, un espace de plein pied qui donne sur la rue piétonne où tout le monde peut venir. L'association Cousins Cousines s'est associée à Agir contre le Sida et SOS Suicide pour inaugurer son nouvel espace d'accueil.
On termine avec cette infoculture et ces mesures fiscales demandées par l'artiste Évrard Chaussois pour soutenir l'art local. Et
cela fait un moment que l'artiste de Rayatea en parle alors qu'il va bientôt exposer au Salon d'automne à Paris, c'est à partir du 29 octobre. C'était l'occasion de revenir avec lui sur la situation des artistes ici. Évrard Chaussois est un des rares à vivre de son art, alors comment soutenir ces artistes locaux ? Pour lui, il faut proposer la défiscalisation des œuvres d'art.
En Polynésie, on défiscalise des véhicules, on défiscalise des machines pour les entreprises, mais les œuvres d'art, ça n'existe pas encore. Voilà, donc j'en ai parlé au président, j'en ai parlé au ministre de l'économie, j'en ai parlé au ministre de la culture. Pour le moment, ils me disent être intéressés, mais voilà, j'essaie d'en parler un peu plus et essayer de faire bouger les choses, parce que si ça, ça pouvait se mettre en place, voilà, ça pourrait, je pense, servir la cause artistique et développer le secteur.
Et les allègements fiscaux pourraient inciter les entreprises à acheter des œuvres et donc offrir de nouvelles opportunités économiques aux artistes du Fénois. Autre combat fiscal, le droit de suite. Ce mécanisme prévu par la loi française permet à un artiste ou à ses héritiers jusqu'à 70 ans après sa mort de percevoir un pourcentage sur la revente d'une œuvre. Ce droit inscrit dans la loi reste peu ou pas appliqué en Polynésie, souvent par méconnaissance.
C'est-à-dire, je vends une œuvre à quelqu'un. Et puis 3-4 ans après, cette personne revend mon œuvre à quelqu'un d'autre en passant par un galeriste ou n'importe quel professionnel. Et ben, l'artiste peut toucher un pourcentage qui varie selon plein de critères, mais en gros, on peut compter à peu près 4% sur le prix hors taxe de la vente.
Voilà, le droit de suite représente un enjeu économique réel, notamment pour les familles d'artistes dont la notoriété posthume fait grimper la valeur des œuvres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici votre météo sur